Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le contexte international a tendance à se dégrader depuis une dizaine d'années. Le monde est plus incertain, les zones d'affrontement se multiplient près de l'Europe, Turquie et Méditerranée orientale, Ukraine, Libye, Sahel, dans un contexte de guerre technologique exacerbée et de forte compétition stratégique entre Chine et États-Unis. À quoi s'ajoute pour l'Europe l'incertitude au sujet du parapluie américain et des avis divergents autour de la création d'une défense européenne assurant l'autonomie stratégique du vieux continent souhaité par la France. La Covid-19 et la crise générée avec le très fort ralentissement de l'activité économique ajoutent de l'inquiétude à l'incertitude. Inquiétude quant aux conséquences de la pandémie sur les budgets et les parts allouées à la défense. La question se pose partout, en Europe, aux États-Unis, où l'on voit les faucons défendre les crédits du Pentagone après les trillions de dollars injectés dans le soutien de l'économie américaine. La question inquiète jusqu'au sommet de l'OTAN, déjà fragilisé par les critiques de Donald Trump et la politique du président turc. Regard sur les priorités à venir et les enjeux pour les États en termes de défense, comment la pandémie redistribue-t-elle les cartes? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Par téléphone, Benoît Muracciol, président de l'association AZER, Action Sécurité Éthique Républicaine. Bonjour.
Bonjour.
Claude Serfati en studio, économiste, chercheur associé à l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale, et au CEMOTEF, le Centre d'études sur la mondialisation, les conflits, les territoires et les vulnérabilités à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et auteur de Le Militaire, une histoire française parue aux éditions Amsterdam. Bonjour.
Bonjour Madame Chatin.
Et Jean-Pierre Moulny, spécialiste des questions de défense et directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Ma première question tourne autour des réflexes générés par la pandémie avec cette interrogation. Seront-ils les mêmes qu'en 2008 avec la décision qui fut alors prise de donner la priorité aux dépenses socio-économiques par rapport à celles telles que les enjeux sécuritaires? Et va-t-on assister à un effondrement de l'ambition visant à établir une posture européenne de dissuasion et de défense qui laisserait l'Europe vulnérable? Point d'interrogation. La pandémie va avoir des conséquences économiques très importantes sur les budgets. Quelle ampleur vont avoir ces conséquences? Est-ce que les armées vont payer le prix de la crise, Claude Serfati?
Il y a un certain nombre de raisons qui militent en faveur d'une réduction des dépenses militaires. La charge de la dette qui va augmenter et auxquelles les dépenses militaires contribuent à proportion de leur place dans le budget. Il y a le désarmement de la plupart des pays face à la pandémie elle-même, en manque de lits, de matériel médical, etc. Mais je pense que on peut craindre l'inverse, c'est-à-dire que les dépenses militaires continuent à augmenter. Elles ont augmenté de 10% depuis 2010 et on peut craindre qu'elles continuent d'augmenter compte tenu de la situation économique et géopolitique qui non seulement s'est tendue depuis la fin des années 2000 avec la crise économique, l'embourbement des États-Unis qui a ouvert des champs de rivalité géopolitique, l'irruption des peuples qu'on a appelé le printemps arabe. Et puis, finalement, qui va s'aggraver, cette situation économique et géopolitique, je le crains avec la pandémie. Donc, je crains qu'il y ait une poursuite de l'augmentation des dépenses militaires.
Alors, je reviendrai bien sûr avec vous sur cette notion de crainte, Claude Serfati, mais d'abord, je passe la parole à Jean-Pierre Moulny, ensuite à Benoît Muracciol, sur les conséquences avec cette question. Jean-Pierre Moulny, les armées vont-elles payer le prix de la crise?
Mais je pense que si on prend le cas des pays de l'Union européenne, globalement, quand même, la défense sera pas la priorité. Maintenant, je pense qu'il y aura des différences, d'une part entre les États, et d'autre part, il y aura une différence temporelle. Il y aura une différence entre les États parce que les pays qui ont une industrie d'armement, comme la France, dans un premier temps, ils vont soutenir les dépenses de défense et notamment les dépenses vers le secteur industriel. D'une certaine manière, ça fera partie du plan de relance. Et on l'a déjà vu avec le plan aéronautique, puisque une des parties du plan aéronautique, ça a été d'anticiper des commandes dans le domaine aéronautique pour les armées. Ça, c'est, je dirais, la réaction pour les deux années, peut-être les deux années à venir. Ensuite, il faudra bien payer effectivement le remboursement de la dette. Et je pense que les effets sur les dépenses de défense la diminution dans des pays comme la France, on les verra plutôt dans 2-3 ans que tout de suite. Mais en revanche, pour les petits pays de l'Union européenne, la réduction sera plus rapide. Et on a déjà eu une première indication, parce que comme il a fallu négocier le budget communautaire 2021-2027 et qu'il y avait des crédits pour la première fois qui devaient être affectés à la défense, avec le Fonds européen de défense, on a bien vu que par rapport à la proposition de la Commission européenne, il y avait une réduction. Mais la réduction n'est pas si énorme que ça.
Benoît Muracciol, votre commentaire.
Alors, je suis d'accord sur ces remarques. J'ajouterai une chose, c'est sur la manque d'anticipation des gouvernements et dans la compréhension de la crise sur le Covid-19. Je pense que cette crise a mis en avant la sécurité des citoyens n'est plus forcément assurée par la question militaire. Hein, j'irai pendant des siècles, enfin presque des millénaires, la question de la puissance, de la sécurité, de la paix, c'était la puissance militaire, et que ce concept avait commencé à changer au début du XXIe siècle avec les interventions extérieures, notamment des États-Unis, enfin en Afghanistan, enfin pas que les États-Unis, mais notamment des États-Unis, Afghanistan, Irak, etc. Et que maintenant, la question du Covid montre que la question de la sécurité se déplace et que les États devront penser à réimaginer la façon de protéger leurs propres citoyens, comme c'est leur engagement de l'achat des Nations Unies. Alors pour l'instant, ça ne fonctionne pas, hein, quand on voit le budget états-unien, qui est annoncé à 750 milliards de dollars, et qui, dans les faits, approche plutôt 1250 milliards de dollars. Hein, c'est ce qu'a fait William Hartung aux États-Unis, avec des éléments extrêmement probants pour arriver jusqu'à ce chiffre. Donc, je suis d'accord avec Jean-Pierre, notamment, quand il dit, et Claude, quand ils disent, les dépenses ne vont pas s'arrêter, et risquent d'augmenter dans le moment. Mais il va y avoir d'abord peut-être une demande de la part des citoyens de dire ça n'est plus possible de continuer comme ça, notre sécurité est plus importante, et de notre sécurité aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir notamment être soigné quand on a besoin de l'aide. Et puis la part des États qui vont se rendre compte quand même que bah, justement, il y a une nouvelle donne dont il faut qu'ils tiennent compte.
Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Benoît Muracciol, Claude Sarfati. On l'a vu au plus fort de l'épidémie. On s'est étonné de voir des pays comme d'abord les États-Unis, première puissance militaire mondiale, manquer de lits, de respirateurs, ce qui a été aussi le cas de la France. Quel regard portez-vous sur, d'une certaine manière, cette contradiction?
Il n'y a aucun doute que c'est la sécurité humaine qui devrait primer. Le gouvernement Philippe a estimé qu'il aurait fallu 14 000 lits alors qu'il n'y en avait que 5 000, soit 54 millions de dépenses. 54 millions, c'est un sixième des dépenses de la guerre menée en Libye, c'est quelques dizaines de missiles là où la France en possède plusieurs milliers. Ce que je veux dire par ces exemples, c'est que 54 millions, c'est pas grand-chose, c'est même rien du tout, et pourtant, ça entraîner une détérioration considérable, non seulement sanitaire, bien sûr, c'est tragique, mais également économique avec le confinement. Par ailleurs, on voit que les quelques centaines de millions utilisés en Libye ont aussi ouvert une boîte de Pandore qui aujourd'hui, malheureusement, ne se refermera pas dans le Sahel et ailleurs. Donc, il y a à la fois cette urgence de développer la sécurité humaine, la sécurité sanitaire, et il y a malheureusement, de l'autre côté, la conjonction croissante dans les politique gouvernementale, de leurs intérêts économiques et de leurs intérêts géostratégiques. Par exemple, aujourd'hui, le raidissement de la France face à la Turquie reflète clairement des rivalités géopolitiques et géoéconomiques en Méditerranée, mais également au Sahel, où la Turquie commence à avoir des ambitions.
Alors, on en reparlera peut-être un peu davantage dans la deuxième partie de l'émission. Jean-Pierre Molny, pour poursuivre un petit peu sur cette crise, dans la crise du coronavirus avec l'enjeu des masques, pour ne prendre que l'exemple de la France, on l'a dit, nous n'avons pas eu suffisamment de stock ni la capacité industrielle pour répondre rapidement à nos besoins. D'une certaine manière, ce n'était pas la première fois. Le rapport 2020 de la Cour des comptes rappelle que la France n'a pas su prendre le virage des drones aériens à force de tergiverser par manque de vision. Donc, elle a acheté des drones américains. Là aussi, votre regard sur cette situation?
Bah, c'est des questions après de, je sais pas si c'est des questions de sécurité humaine, mais en tout cas c'est des questions de politique publique en général. On a bien vu avec l'effet Covid-19 que tout d'un coup on s'est aperçu qu'effectivement il y avait un déficit dans la politique de santé française, alors même que notre système sanitaire était un des plus performants. Donc là il y a eu des réactions plutôt positives, mais malheureusement un peu, je dirais un peu tardives. Et c'est pas tellement la question des masques que la question de l'hôpital, de la question des infirmières, etc., etc. Finalement, de la rémunération des personnels. C'était un des points les plus importants. Sur la question des masques, il y a deux choses. Une première chose qui est tout simplement que, en termes de sécurité, on a failli sur les questions de stock de masques. Hein. Mmh. Ça, c'est la réalité. Mais normalement, il faut bien voir que les pandémies, ça figure dans le livre blanc de 2008, ça figure dans le livre blanc de 2013, qui a normalement un plan blanc, hein, qui est au niveau du SGDSN, qui est prévu pour normalement ce type de crise. Et là, visiblement, il y a une faille. Après, il y a une deuxième question, qui est la question de sécurité d'approvisionnement, si je puis dire. Et on s'était aperçu qu'effectivement, un masque pouvait devenir aussi stratégique qu'un avion de combat ou la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, quand on a une crise d'une telle ampleur qu'on n'avait certes pas prévu avec une telle ampleur, on s'aperçoit que si on n'a pas de capacité de fabriquer des masques, un seul pays ne peut pas suffire à fournir tous les États du monde.
Benoît Mirachal.
Oui, dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que le Covid n'a fait que mettre en exergue les problématiques auxquelles les gouvernements étaient affrontés sur la question de quels sont les enjeux stratégiques pour chaque pays. Parce que la question des masques, des soignants, etc., mais pas seulement la question des masques, comme disait Jean-Pierre, la question de l'approvisionnement, la question de comment marche une économie, quels sont, on a parlé des éboueurs, on a parlé des gens qui travaillaient dans les magasins, les caissiers, les caissières, etc. Donc, le Covid, tout d'un coup, avec une accélération extraordinaire, semble dire qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et quand on regarde le pourcentage des dépenses militaires par rapport aux autres dépenses, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein, je rappelle que l'article 26 de la Charte des Nations Unies, que les États ne doivent pas surinvestir dans les dépenses militaires. Ça, c'est l'engagement de tous les États membres des Nations Unies. Et on remarque ce que disait Claude tout à l'heure, c'est qu'il y a une augmentation depuis 5 ans, une augmentation notable de ces dépenses militaires. Jean-Pierre a parlé rapidement de la question des fonds de recherche de l'Union européenne. Et c'est vrai que c'est assez vertigineux parce qu'il était prévu, je crois, 35 milliards de fonds sur 5 ans pour la recherche militaire. Et on n'avait pas quelques centaines de millions pour anticiper une crise pandémique comme celle-là, même si c'était pas évident de la concevoir comme elle a émergé. Mais on n'a pas des centaines de millions juste pour penser et prévenir, anticiper ce type de crise. Donc là, c'est, à mon avis, une question nouvelle, accélérée, qui n'a pas encore véritablement touché la réflexion des gouvernements.
Mais enfin, oui, Claude Sarfati, je vous donne la parole, parce que c'est important de poser les choses telles qu'on les voit aussi. Alors, peut-être que ce qu'on voit ne correspond pas à la réalité, mais tout de même, la question des dépenses militaires, c'est aussi la densification de notre tissu industriel. Claude Sarfati.
Les études que je mène depuis très longtemps sur l'impact des dépenses militaires sur le système productif et d'innovation de la France démentent les arguments d'effets multiplicateurs de ces dépenses. En réalité, lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il suffit de regarder par exemple la balance commerciale de la France. Tous les secteurs industriels, manufacturiers, y compris l'automobile depuis les années 2000, sont entrés dans le rouge de façon détériorée, y compris évidemment vis-à-vis de nos partenaires européens. Seule l'aéronautique et la défense avaient survécu, l'aéronautique étant à peu près le seul secteur industriel qui a bénéficié des dépenses militaires, le seul secteur industriel civil qui a bénéficié des dépenses militaires. Et mes recherches, avec des articles récemment publiés sur ce thème, montrent que, au contraire, la priorité donnée depuis des décennies au système d'innovation militaire, à la recherche militaire, aux grands groupes de l'innovation militaire, ont détérioré le système industriel. Je prendrai juste un seul exemple. Le groupe Thomson, c'est Thales aujourd'hui, était un groupe à la fois militaire et civil dans les années 90, et sous l'impulsion de son PDG Alain Gomez, il a sacrifié la pépite que représentait le premier groupe mondial de scanners. Il était facile de prévoir que dans les années 90, la demande médicale croîtrait. Il a préféré s'en séparer pour se recentrer sur le militaire. On a là un résumé caricatural et tragique, on le voit aujourd'hui, de la politique industrielle. Non, je ne pense pas que les dépenses militaires contribuent réellement à innover dans le domaine civil. Et encore une fois, il suffit de regarder la détérioration. Même aujourd'hui, des pépites PME travaillant pour la défense viennent d'être achetées aujourd'hui par, ou sont menacées d'être achetées par des groupes étrangers. Je pense à Photonis et Aubert et Duval, qui d'ailleurs inquiètent beaucoup les militaires.
Alors Jean-Pierre Mollier, est-ce que c'est une spécificité française, là où on voit, en particulier aux États-Unis, les industries de défense avoir un rôle essentiel dans l'avance technologique américaine ?
Non, je relativiserai quand même beaucoup ce qui vient d'être dit. D'une part, le budget de défense communautaire, il n'était pas de 35 milliards à l'origine, mais il était de 13 milliards sur 7 ans, et il a été diminué à 7 milliards sur 7 ans. Il faut bien voir que le budget français de la défense sur un an, il est de plus de 35 milliards. Donc c'est vraiment extrêmement peu. C'est simplement pour initier de la coopération en matière d'armement au niveau européen. C'est-à-dire mutualiser, en fait, les dépenses de défense, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on voit quand même une évolution de ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense aujourd'hui, c'est-à-dire l'industrie de défense. Et de plus en plus, on s'aperçoit que c'est de moins en moins une industrie de défense. Tout simplement parce que ce qui irrigue les équipements militaires aujourd'hui, c'est toutes les innovations qui viennent du secteur numérique. Et ça, c'est en train de bouleverser totalement le panorama industriel mondial, et ça va continuer à l'être dans les années qui viennent. Et on va voir certainement des restructurations qui vont se faire, et avec des entreprises qui seront certainement de moins en moins défense. Si vous regardez la réforme qui a été faite au niveau du ministère de la Défense sur l'Agence d'innovation de défense, il y a 100 millions d'euros qui sont mis sur l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle, elle est duale par nature, c'est pas spécifiquement civil ou militaire. Effectivement, il y a une question de préservation des PME à l'heure actuelle qui inquiète beaucoup le ministère des Armées, mais ces PME, souvent, elles sont duales. Elles fonctionnent,
c'est-à-dire civiles et militaires.
Civiles et militaires, elles fonctionnent d'ailleurs souvent, essentiellement, avec des produits civils. Donc la question est bien plus large aujourd'hui, et c'est de la haute technologie. Et ce qui est vrai, c'est que la haute technologie également a un bénéfice au niveau militaire. Quant à l'industrie de défense française, elle s'est créée en vertu d'un principe d'autonomie stratégique au départ. Une fois qu'on a une industrie de défense, autant faire qu'elle soit rentable, si vous voulez. Mais je crois que effectivement, plus personne pense aujourd'hui qu'on crée une industrie de défense pour avoir une rentabilité économique. On crée une industrie de défense d'abord pour se défendre.
En tout cas, ce que j'ai compris de ce que vous venez de dire, Jean-Pierre Mollier, c'est que, pour poursuivre sur cette question d'évolution de l'industrie de défense, c'est que nos choix vont devoir être modifiés, précisément, par ces nouvelles technologies.
Ah oui, complètement. Prenez Thales, dont Claude a parlé. Thales, aujourd'hui, c'est 50% civil, 50% militaire. Et quand il rachète Gemalto récemment, il rachète du civil, il rachète pas du militaire.
Benoît Muratschol, un commentaire rapide pour terminer cette première partie d'émission.
Juste pour continuer sur Thales, précisément, il y a la CGT Thales qui a proposé de développer l'imagerie médicale, justement, qui représentait une connaissance et une expertise de Thales. Et le nouveau directeur de Thales s'est opposé à cette proposition. Donc non, je crois qu'on est encore dans le dur. C'est comme si il se passait, le monde était en train de bouger et on avait toujours tout va très bien, Madame la Marquise. Il y a besoin d'une réflexion, il y aurait besoin d'une véritable réflexion pour essayer d'anticiper. Et c'est dommage parce que, comme disait Jean-Pierre, c'est vrai que dans les livres blancs de la défense, il y avait cette question des pandémies et ça aurait dû ouvrir sur, qu'est-ce qu'on fait si ce genre de drame arrive.
Géopolitique, on vous retrouve, Benoît Muracciol, avec Claude Serfati et Jean-Pierre Molny après le journal. À tout de suite.
Tout à l'heure. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les priorités à venir et les enjeux pour les États en termes de défense. Comment la pandémie redistribue-t-elle les cartes? Nous retrouvons nos invités par téléphone. Benoît Muracciol, président de l'association AZER, Action Sécurité Éthique Républicaine. Claude Serfati, économiste, chercheur associé à l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale, et au CEMOTEF, Centre d'études sur la mondialisation, les conflits, les territoires et les vulnérabilités à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et Jean-Pierre Molny, spécialiste des questions de défense et directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Jean-Pierre Molny, on a terminé la première partie de l'émission sur les évolutions dans l'industrie de défense. Est-ce que, et on parlait de possibles choix à faire, est-ce qu'il faut se concentrer et est-ce qu'on voit finalement une évolution vers une concentration sur certains points stratégiques seulement? Je pense au cyber, aux missiles hypersoniques, c'est cela. Est-ce que des choix vont s'imposer dans nos politiques et dans nos choix concernant la défense, Jean-Pierre Molny?
Il y a effectivement un questionnement global sur la répartition des dépenses entre les différentes capacités militaires. Et parfois, on se dit, est-ce que les grands équipements du passé, porte-avions, avions de combat, etc., seront adaptés à la guerre du futur, sachant qu'on voit bien que, notamment avec les effets du numérique, le cyber prend de plus en plus d'importance, et le fait de pouvoir connecter également les plateformes prend de plus en plus d'importance. Et à l'heure actuelle, il y a notamment un grand débat au Royaume-Uni qui est en train de faire sa revue stratégique entre ce qu'on pourrait appeler les anciens et les modernes, les anciens étant plutôt les militaires défendant les plateformes et les modernes étant plutôt les politiques, notamment autour de Boris Johnson, disant mais écoutez, c'est que ces équipements nous ont coûté extrêmement cher et ne seront pas adaptés à la guerre du futur.
Un commentaire peut-être, Claude Serfati, sur cette question. Après ça, on abordera la question de l'impact de la pandémie pour la France en termes d'annulation de commandes ou de commandes différées. Claude Serfati.
Oui, je ne suis pas un spécialiste de la stratégie, mais il est clair que ce qui a été dit tout à l'heure pour le plan pandémie inscrit dans le livre blanc n'a pas été réalisé en raison de la faiblesse industrielle française. Donc je crois que concernant les équipements dont vous parlez, la France a toujours été confrontée à un problème de budgétaire hein, pour financer l'ensemble de la gamme des équipements militaires qu'elle souhaite, et ça relativise la notion de souveraineté. Et cette contrainte budgétaire qui va s'exercer sur les choix d'équipements, elle va évidemment s'accentuer, ne serait-ce que parce que ça a été dit, on a de plus en plus recours au domaine civil, et de nouveau dans le domaine civil, la France souffre de beaucoup de handicaps. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des choix à faire, mais en même temps ces choix vont être extrêmement difficiles parce que ils vont impliquer de plus en plus une dépendance vis-à-vis d'étrangers, et on sait combien la doctrine française est au contraire attachée à la souveraineté ou à l'affirmation de la souveraineté en tout cas.
Benoît Muracciol, qu'est-ce que l'on sait finalement de l'impact du coronavirus, de la pandémie pour la France en matière de défense? La France qui est en train de vendre, le contrat n'est pas signé, des rafales à la Grèce dans son conflit et opposition avec la Turquie. Il n'empêche que plus généralement, on a vu des commandes être annulées ou des commandes être différées dans le domaine de l'aéronautique chez Airbus, Dassault Aviation, Safran, Thales. Question aussi peut-être d'impact sur l'exportation des armes par la France, Benoît Muracciol.
Mais pendant la crise elle-même, les commandes, d'après nos informations, les commandes ont été carrément arrêtées, parce que les douaniers ne travaillaient plus. Donc oui, il y a eu quelque chose, il y a eu un effet direct du Covid, pratique et matériel très important. Est-ce que ça a eu un impact sur la question de la sécurité des pays auxquels étaient destinées ces armes? Visiblement pas, puisque quand on regarde notamment au Moyen-Orient et au Yémen particulièrement, la situation des partis n'a pas changé. Par contre, la situation de la population, elle, continue d'être dramatique. Il semble que petit à petit, le système est reparti. Et là encore, le propos de vendre des rafales à la Grèce va à l'encontre de tous les signaux que nous venons de recevoir. C'est-à-dire que, bon, il y a une tension en ce moment avec la Turquie pour différentes raisons dont Claude a parlé, et notamment aussi la question intérieure. Erdogan est mis en difficulté sur le plan intérieur et espère que les tensions vont sortir de ces difficultés-là. Et la réponse du gouvernement français, des membres de l'OTAN comme la Grèce et la Turquie, devrait être de chercher une solution diplomatique, comme normalement on le fait tous. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que la seule réaction, c'est de dire « Ah ben, on va vendre des rafales, donc on va risquer une montée de la tension, simplement pour sauver les chaînes de production de Dassault ». Et on se rappelle que quand même, la Grèce a connu une crise absolument terrifiante, la crise de l'euro, qui fait que la population grecque s'est trouvée dans des situations de perte d'accès à la santé, de mortalité enfantine, d'explosion des chiffres de suicide, etc. Et la solidarité, aujourd'hui, la solidarité du gouvernement français auprès du peuple grec, c'est de vendre des rafales. D'ailleurs, on ne sait même pas comment va payer la Grèce. Hein.
Jean-Pierre Monny, un commentaire sur la question de la vente par la France des rafales à la Grèce.
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a une question de modernisation, de renouvellement de l'aviation de combat grec. Ils avaient quand même annoncé également l'achat d'avions américains à la fin de l'année dernière. Et puis, il y a d'un autre côté la question, tout simplement, d'une crise à l'heure actuelle entre la Grèce et la Turquie. Et je dirais que le réflexe logique et normal, ça doit être d'apaiser les tensions. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a une tentative de négociation allemande sur la crise gréco-turque. Donc, personnellement, ce que je pense, c'est que vendre des avions à la Grèce, en soi, c'est pas répréhensible. En termes d'opportunité, je suis pas sûr, effectivement, qu'il eût été très opportun d'en faire l'annonce à ce moment-là.
Pourquoi précisément, Jean-Pierre Monny?
Parce que on est quand même en pleine crise gréco-turque et que je pense que l'idée qu'on ait l'Union européenne contre la Turquie, ça peut pas être une clé de lecture. Et quand je dis ça, je suis pas en train de défendre la Turquie ou le gouvernement d'Erdogan et surtout d'ailleurs le président Erdogan, si vous voulez, qui est dans une politique de montée des tensions, tout simplement pour consolider son gouvernement. Mais après, on est quand même dans une situation où on doit trouver tout simplement une solution concrète à la crise entre la Grèce et la Turquie. Et puis surtout, c'est les questions de délimitation des zones maritimes, puisque c'est ça la question. Commençons d'abord par régler cette question-là. On peut toujours faire un peu de dissuasion. Mais enfin, quand même, en général, quand il y a une crise, les réflexes au niveau des Nations Unies, c'est plutôt de faire un embargo sur les exportations d'armement, pas de vente des armes.
Alors, la Turquie, dont on peut souligner qu'elle a profité de la pandémie pour... elle n'est pas la seule, la Chine l'a fait aussi dans sa région, mais pour en ce qui concerne la Turquie, pour avancer ses pions, à la fois vis-à-vis de la Grèce, à propos de la zone économique exclusive, et puis la Libye aussi. La Turquie, qui est par ailleurs membre de l'OTAN, ça me permet d'aborder cette question avec vous. Est-ce que la crise peut pousser les États à se retirer de l'OTAN pour ne plus avoir à financer la défense européenne, point d'interrogation, ou au contraire, on va assister à un renforcement de la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN concernant les choix politiques les plus judicieux en matière budgétaire, Claude Serfati?
Bon, permettez-moi là de résumer en quelques mots les hypothèses que je développe depuis longtemps sur cette question. Je suis ni un adepte des théories de l'Empire, dans lesquelles les États-Unis auraient absorbé l'Europe comme des féodaux, ni l'idée qu'il n'y aurait rien et des antagonismes à venir entre l'Europe et les États-Unis. Je pense qu'on est entre les deux pour aller très vite et qu'il y a cette compétition qui est en même temps fait d'alliance au sein de ce que j'appelle le bloc transatlantique. Donc vous avez à la fois des forces de tension qui poussent vers l'intégration vers l'OTAN et en même temps, vu le durcissement de la concurrence économique. Hein. Trump cible directement l'Allemagne presque autant que la Chine dans ses représailles économiques. Compte tenu du durcissement, il y a presque une tendance mécanique des États européens, y compris l'Allemagne, à développer ce que la présidente de la Commission vient d'appeler une commission géopolitique. Le problème, c'est que derrière, ni les Français ni les Allemands ne s'accordent sur qu'est-ce que doit être une Europe géopolitique. Pour répondre à votre question, donc de façon un peu plus brève, je dirais que je ne pense pas que l'OTAN va éclater, parce que les liens économiques, financiers, culturels, politiques qui unissent l'Europe aux États-Unis dépassent les clivages momentanés qui existent. Hein. Je crois également que la conjoncture historique, géopolitique et économique va pousser l'Europe à chercher à développer, sinon sa propre autonomie, au moins ses propres ressources sur le plan mondial.
Alors, question là aussi plus large finalement, est-ce que l'issue de la crise peut constituer d'après vous une opportunité à saisir en matière de désarmement, puisque la plupart des États auront intérêt à contracter leurs dépenses militaires? On la voit, cette crise, avoir des effets possibles sur la non-prolifération et la maîtrise des armements. Elle intervient en plein délitement du cadre légal de maîtrise des armements. Elle est citée aux États-Unis comme un facteur pouvant ralentir la négociation d'un successeur au traité New Start. Un commentaire. Alors peut-être vous, Benoît Mouratchal, après ça, je vous poserai la question, Jean-Pierre Monnier. Benoît Mouratchal.
Oui, ce serait une belle opportunité. Encore une fois, je pense que les États ne sont pas prêts. Ils sont encore dans le réactif et les opinions publiques n'ont pas encore poussé suffisamment pour que les États s'interrogent un peu plus dans le temps et en anticipation. Donc ça, c'est vraiment le problème. Quand on regarde les budgets militaires, le classement des 10 premiers pays, et quand on regarde par exemple l'indice de développement humain qui est développé par le PNUD, je crois qu'il n'y a que l'Allemagne qui est dans les 10 premières puissances militaires et qui est à peu près à la même place dans l'indice de développement humain. Donc, encore une fois, les États ont toujours fonctionné sur la puissance militaire, la puissance du pays, et je pense que cette pandémie va obliger les États, par le biais des opinions publiques, de réinitialiser cette pensée-là. Mais ça va prendre du temps. Quand Claude disait tout à l'heure que les budgets risquaient d'augmenter encore, je pense effectivement qu'ils risquent d'augmenter encore jusqu'à ce que cette question soit abordée par les populations, les sociétés civiles du monde entier, les parlements. Hein. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de discussion sur le budget militaire en France, sur les exportations militaires en France. En plus de cela, il nous est seriné à chaque fois que les exportations en général des pays, les exportations d'armes en général des pays, sont un gain pour les pays. Et quand on creuse un petit peu sur ce que représentent ces exportations en termes de gains financiers, on revient très vite sur cette idée-là. Hein. Le dernier grand choc financier, c'est quand même Jihad Industries qui avait vendu des chars Leclerc aux Émirats Arabes Unis, qui sont actuellement d'ailleurs sur le terrain au Yémen, et qui a coûté, selon la Cour des comptes, plus d'un milliard d'euros aux contribuables français, parce qu'entre le moment où le contrat a été passé et le moment où le matériel a été livré, eh bien, il y a eu un coût faramineux qui a d'ailleurs signé la fin de l'entreprise Jihad Industries.
Vous écoutez RFI, Marie-France Atin.
Alors, je reprends la deuxième partie de ma question, Jean-Pierre Monnier. Impact de la pandémie sur la maîtrise des armements. Et puis, si on veut un petit peu élargir, qu'est-ce que l'on sait de la façon dont la Chine et la Russie se trouvent aujourd'hui, état des lieux en matière de défense face à cette problématique qui est commune à tous les pays de la pandémie, Jean-Pierre Monnier?
Je vais peut-être quand même revenir sur la question de départ. Je pense que le Covid-19, ça va quand même provoquer un ralentissement de l'accroissement des dépenses d'armement. Si vous regardez le projet de budget de défense des États-Unis, il a très fortement augmenté les deux dernières années. Le prochain projet de budget proposé par Trump, hein, le budget n'est pas encore voté, il n'y a pas d'accroissement majeur. Hein.
Simplement donc parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire pourcentage du PIB, comme le PIB va baisser, les dépenses d'armement vont baisser d'elles-mêmes. C'est cela qu'il faut entendre, Jean-Pierre Monnier.
Si vous parlez en pourcentage du PIB, évidemment ça va augmenter puisque le PIB il a baissé. Mais en revanche, en valeur absolue, le budget ne va pas nécessairement augmenter. Pour ce qui est du désarmement, tout dépend si on parle de désarmement, structurel lié au Covid-19 ou de désarmement négocié. Le désarmement négocié, la réponse, elle est très claire, c'est non. Il n'y aura aucun effet. Et j'ai envie de dire, tant que Donald Trump sera président des États-Unis, il n'y aura pas de désarmement multilatéral. Parce que, un, il n'en veut pas. Deux, que sa question aujourd'hui, c'est la Chine. On voit bien sur New Start, il veut impliquer les Chinois dans New Start. Les Chinois disent non, bien évidemment. Les Russes ont répondu, s'il doit y avoir les Chinois, il faut aussi qu'il y ait les Français et les Britanniques. Mmh. Donc tout ça, naturellement, ne va mener nulle part.
Mmh. Donc changement possible si jamais Donald Trump n'est pas réélu le 3 novembre.
Éventuellement. Ce n'est pas certain, mais il est certain que ça ne pourra être que plus positif par rapport à une éventuelle prorogation des traités de désarmement qui, pour l'instant, sont en train de disparaître les uns après les autres, en tout cas sur le désarmement stratégique.
Claude Sarfati, pendant ce temps-là, la Chine poursuit ses dépenses militaires et ses objectifs en la matière ?
Oui, le budget militaire chinois augmente. Selon la dernière étude du CEPRI, il y aurait même des entreprises chinoises qui figuraient maintenant au deuxième rang mondial des entreprises de défense mondiale. On ne parle pas là des budgets militaires, mais de l'industrie d'armement. Le CEPRI, pour la première fois, a pu accéder à des données et les entreprises chinoises seraient en deuxième position, bien sûr, derrière les Américains. Donc il n'y a aucun doute que la Chine augmente son budget. Si je reviens sur la France et ce qui a été dit précédemment, il y a quasiment une addiction aux dépenses militaires en France et aux exportations. Ça a été rappelé sur la Grèce, la façon dont on se précipite pour essayer de vendre des rafales. Et ça a été dit, l'avenir est ouvert en France pour parler de désarmement. Vous avez beaucoup de responsables politiques, le président de la commission de défense, des rapports parlementaires qui disent qu'il faut absolument augmenter la garde, que la France est aujourd'hui démunie face aux menaces. Peut-être, ça a été dit, parce qu'on n'a pas exactement les équipements qu'il faudrait. Et puis, vous avez, à mon avis, de l'autre côté, l'urgence sanitaire, sociale et économique qui exigerait de diminuer ses dépenses militaires. Mais on voit bien que là, l'avenir en France est ouvert et ça dépendra de beaucoup de choses et de l'implication de ce qu'il a été appelé précédemment l'opinion publique.
Benoît Muratchal.
Oui, il y a une chose qui est quand même intéressante sur la Chine. D'abord, c'est vrai que c'est un budget militaire important. Hein. Selon l'estimation CEPRI, c'est plus de 261 milliards de dollars. Mais ça concerne quand même plus d'un milliard de personnes. Hein, au prorata par habitant, quand on voit que les États-Unis... Si on considère l'étude d'Arnoux qui est à 1250 milliards, pour 350 millions de personnes, voilà, le prorata n'est pas le même. Mais il y a une chose qui aussi va bouleverser peut-être la stratégie états-unienne, c'est le développement des routes de la soie. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui est en train de développer ces routes de la soie qui vont permettre ses exportations hors maritime. Et les États-Unis ont repris le relais de la Grande-Bretagne et sont les maîtres des mers, je dirais, et ont investi leur budget militaire pour garder ce contrôle des mers. Et tout d'un coup, tout cet investissement tombe à l'eau, si je peux exprimer comme ça, parce que la Chine a choisi un développement économique différent.
En guise de conclusion, Jean-Pierre Molny, on voit le triangle stratégique États-Unis, Chine, Russie être et avoir vocation à demeurer la matrice des relations internationales dans les années qui viennent. La question qui se pose est de savoir ce que pèse l'Europe face à ce triangle stratégique. La défense européenne fragilisée par la crise du corona.
D'abord, moi, je ne parlerai pas de triangle. La question, elle est vraiment Chine, États-Unis aujourd'hui. C'est pas la Russie. Et sur les dépenses militaires, on peut avoir une crainte sur les années futures, tout simplement parce que si on va regarder l'année 2020, si le PIB chinois n'a pas diminué alors que les PIB des autres pays ont diminué, vous aurez mathématiquement un accroissement plus important des dépenses militaires chinoises que des autres pays, notamment des États-Unis. Ça risque de créer une réaction encore supplémentaire de la part des États-Unis par rapport à la Chine. Par rapport à l'Union européenne, la vraie question, c'est pas la Turquie, c'est les États-Unis. Plus les États-Unis s'éloignent de l'Union européenne, plus les Européens ont intérêt à se défendre eux-mêmes. Donc c'est le facteur géopolitique qui jouera éventuellement sur le fait que les Européens font un effort de défense, mais font un effort de défense mutuelle, et encore une fois, pour s'autonomiser vis-à-vis des États-Unis.
Merci Jean-Pierre Molny. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de défense et directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, qui vient de publier dans sa dernière édition l'année stratégique 2021 aux éditions Colin. Merci aussi à Benoît Muratchal, le président de l'association AZER, Action Sécurité sécurité éthique républicaine. Et Claude Serfati, économiste, chercheur associé à l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, et au CEMOTEF, le Centre d'études sur la mondialisation, les conflits, les territoires et les vulnérabilités à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, et auteur de Le Militaire, une histoire française aux éditions Amsterdam. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yaël Co et Nathalie Laporte. Demain, nous nous tournerons vers le transport aérien, secteur particulièrement touché par la pandémie, contraint à se poser beaucoup de questions au regard de son empreinte sur l'environnement. À demain.